Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme « Votre santé, un trésor ». J'ai la grande joie aujourd'hui de recevoir le professeur Pierre Marès, gynécologue et obstétricien. Pierre Marès a pris la chefferie du service de gynécologie et d'obstétrique alors que j'étais jeune externe au CHU de Nîmes lorsque le CHU était encore installé rue Hoche. Je me rappelle très bien de cette prise de fonction. Il a fait de ce service un vrai service de gynéco-obstétrique d'un CHU. Il lui a donné un rayonnement qui a opéré bien au-delà de notre région. Il a créé notamment une consultation pluridisciplinaire prenant en charge les douleurs pelviennes chez la femme, ce qui a été extrêmement novateur. Il a été aussi un brillant président de CME, qui est de la commission médicale d'établissement du CHU de Nîmes, où un immense travail pour le CHU a été réalisé. J'ai pu en juger, car c'était une période où je pratiquais au CHU de Nîmes. C'est aujourd'hui en tant que spécialiste de l'endométriose que nous recevons Pierre Marès. Bonjour et merci à vous d'être avec nous.
Bonjour et merci de votre invitation.
Alors l'endométriose, j'ai relevé le chiffre d'une maladie qui touche 190 millions de femmes dans le monde. J'ai osé avancer que 190 millions de femmes dans le monde souffraient d'endométriose. Tout d'abord, est-ce que mon chiffre est juste ?
Alors votre chiffre correspond à ce qu'on appelle les chiffres statistiques, donc c'est ce qu'on peut estimer. En France, ce qu'on considère, et en Europe, c'est que environ une femme sur 10 peut être concernée par le problème de l'endométriose. Le problème, c'est que dès qu'on a une pathologie abdominopelvienne, aujourd'hui, soit il y a 10 ans, on disait c'est un nerf pudendal qui est en cause, maintenant, aujourd'hui, on dit c'est une endométriose. Donc ce qui est important, c'est surtout d'avoir une consultation médicale de qualité qui va permettre de faire un screening entre ces différents types de douleurs pour adapter les thérapeutiques. L'essentiel est là.
Quand vous parlez de screening, qu'est-ce que vous entendez par ce terme ?
C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une douleur abdominopelvienne au niveau de l'abdomen qu'on a automatiquement une endométriose. On peut avoir des douleurs qui sont d'origine digestive, on peut avoir des douleurs d'origine vasculaire, etc. Donc ce qui est important, c'est que chez une patiente, chez une femme qui a une gêne pelvienne, des douleurs, alors en règle générale, l'endométriose est souvent associée à des douleurs qui surviennent au moment des règles.
D'accord.
C'est souvent un des premiers signes. Donc il y a des signes comme ça, c'est les 4D. Il y a les dysménorrhées, les douleurs pendant les rapports, etc. Donc ces éléments doivent faire penser à l'endométriose.
D'accord.
Pourquoi je dis ça ? Parce que le danger chez une jeune femme, c'est de laisser s'installer, et vous avez évoqué la consultation des douleurs chroniques qu'on a mises en place, c'est de laisser s'installer des douleurs qui deviennent chroniques et qui ensuite vont perturber toute la vie de la femme. C'est pour ça que l'important, c'est de faire un diagnostic précoce et de ne pas attendre, puisque ce qu'on reproche aux soignants et aux médecins dont nous faisons partie, vous et moi, c'est que nous mettons 6 à 7 ans avant de faire ce diagnostic.
Donc les chiffres que j'ai donnés, 190 millions, qui est énorme, c'est énorme.
Oui, mais on est 3 milliards.
Oui, mais en fait, c'est quand même énorme, parce que sur les 190 millions d'endométriose étiquetée, on peut multiplier par 3, 4, 5, par 10 les femmes qui en souffrent dans des pays où justement il n'y a pas l'accès aux soins et de pathologies. Et donc en France, vous dites une femme sur 10. Vous estimez à combien, en milliers ou en millions de femmes en France qui souffrent de cette pathologie ? Parce qu'on entend de plus en plus parler de ce problème. Les politiques ont pris la main dessus pour leurs raisons, hein, qui ne sont pas forcément médicales, mais qui sont les raisons des politiques. On ne fait pas de politique ici, on fait de la médecine. Mais vous estimez à combien à peu près la prévalence d'endométriose en France ?
Si vous prenez 1 sur 10, vous prenez la moitié de la population française, donc vous avez votre pourcentage. C'est 1 sur 10 de 30 millions de personnes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on a mal.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir des endométrioses asymptomatiques, c'est-à-dire
strictement, strictement asymptomatiques. Et quand vous parlez d'une époque où on avait peu d'outils pour faire un diagnostic, puisqu'il n'y avait pas les IRM, on n'avait que la célioscopie. La célioscopie étant cet examen où on met un trocar au niveau du nombril pour regarder ce qui se passe, des femmes qui avaient des douleurs pelviennes ont découvert une endométriose, mais ce n'est pas l'endométriose qui était leur problème douloureux. C'était parce qu'elles avaient une rectocolite, c'est parce qu'elles avaient une diverticulose, etc.
On découvrit au cours d'un examen,
cette pathologie.
Fortuitement, quoi.
Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir une analyse clinique fine. Des examens aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de rendre invasif, puisqu'on peut faire des IRM, c'est-à-dire que ça n'impose pas une anesthésie, et on peut faire le diagnostic d'endométriose superficielle ou profonde grâce aux IRM.
Voilà, on rappelle que l'IRM, c'est l'image par résonance magnétique, c'est-à-dire que c'est une radio qui n'est pas une radio, les radiologues me jetteraient la pierre, qui est une image du corps, une imagerie du corps qui utilise non pas les rayons X, mais les champs magnétiques. Alors maintenant, pouvez-vous nous définir ce qu'est une endométriose et comment cette maladie féminine se manifeste-t-elle?
Alors l'endométriose, j'allais dire, si vous me posez la question de la pathogénie qui explique l'endométriose, je ne vous y répondrai pas parce qu'il y a 5 théories. Et à Los Angeles, il y a un panneau où il y a les prix Nobel et il y a un panneau qui est vide, libéré pour le médecin qui trouvera ou le biologiste l'historicité réelle de l'endométriose. Alors l'endométriose, de façon très simple, c'est si on imagine un utérus comme une poche, à l'intérieur de cette poche, il y a une tapisserie qu'on appelle la muqueuse utérine et qui, chaque mois, s'évacue et qui correspond aux règles. Le problème de l'endométriose, c'est que ce type de tissu, au lieu d'être positionné strictement à l'intérieur de l'utérus, va migrer dans d'autres zones. C'est pour ça qu'il y a plusieurs théories, parce qu'on ne sait pas bien expliquer pourquoi il y en a dans le péritoine, ça on le comprend, c'est les douleurs abdominales. Qui viennent sur le tube digestif, on le comprend, c'est toujours dans l'abdomen. Par contre, il y a des endométrioses pulmonaires qui existent.
Oui,
donc ça, est-ce qu'il y a des migrations vasculaires? C'est pour ça que, pour répondre clairement à votre question, cette muqueuse, au lieu d'être dans l'utérus et donc de se drainer à l'extérieur chaque mois, eh bien elle reste dans l'utérus. Parfois, elle va pénétrer dans le muscle utérin. Et c'est pour ça qu'il y a des femmes qui ont des douleurs fortes parce que le muscle se contracte et c'est hyper douloureux. C'est comme si on avait une crampe en permanence. Et ça peut migrer dans l'abdomen, voire contaminer les zones ovariennes. Et c'est ce qu'on appelle des endométriums. C'est des kystes qui sont comme du chocolat, mais qui sont très épais et qui sont des sources de douleurs importantes parce qu'après, ça fabrique des adhérences qui sont elles-mêmes, après, sources de douleurs. Et c'est pour ça qu'il faut traiter chaque zone et chaque spécificité de douleur de façon différente.
Bon, c'est un beau projet de recherche pour le CHU de Nîmes.
Donc mais on n'est pas seul, et comme vous l'avez compris, on est nombreux à chercher et à avoir des difficultés. Ce qui est important, c'est qu'on a compris qu'il y a les douleurs liées à l'endométriose qui sont liées à cette modification de la muqueuse, mais qui, au lieu de se drainer à l'extérieur, reste dans le corps et donc fait mal parce qu'elle distend les tissus.
Oui, bien sûr, hein.
Donc ça, on arrive assez bien à le bloquer maintenant avec les médicaments qu'on a pour arrêter les règles. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que des femmes peuvent garder, alors qu'elles n'ont plus de règles, des douleurs. Et c'est ça le gros progrès d'aujourd'hui, c'est que c'est pas parce que la femme a obtenu une absence de règles qu'on appelle une aménorrhée, où les médecins nous étions contents parce qu'on se disait « elle ne va plus avoir mal ».
Oui.
En fait, les zones cicatricielles de l'endométriose ou de l'adénomyose, c'est cette partie de muqueuse qui rentre dans le muscle utérin et qui fait mal, peut rester douloureuse.
Alors, une question technique qui m'intéresse, est-ce que ce tissu qui migre dans l'organisme jusqu'au poumon, donc pour un anatomiste, c'est quand même extraordinaire, est-ce qu'il reste la même qualité? Est-ce que c'est la même histologie, comme on dit, c'est-à-dire la même qualité de tissu que l'endomètre, c'est-à-dire cette partie, ce tissu qui tapisse l'intérieur de l'utérus, où il y a des modifications histologiques?
D'après les notions qu'on a, c'est les mêmes tissus, c'est puisque lorsqu'on fait une exérèse d'une zone d'endométriose dans un poumon, on retrouve les zones glandulaires comme elles sont dans la muqueuse. Alors après, c'est un petit peu modifié parce que ce n'est pas dans les mêmes environnement hormonal complet. Mais si vous voulez, sur le plan pratique, c'est le même type de tissu. Et c'est pour ça qu'on peut faire le diagnostic d'endométriose hors du pelvis, parfois.
D'accord. Alors, on a bien compris que le maître symptôme de l'endométriose, c'était la douleur, mais les femmes se plaignent de quoi en plus quand elles souffrent d'endométriose ?
Alors, en général, si vous voulez, vous avez les douleurs pendant les règles, qui est le maître symptôme en général, lorsque ces douleurs durent et s'aggravent. La deuxième signe, c'est les douleurs lorsqu'il y a des rapports en profondeur, puisque c'est cette zone du péritoine qui va être contaminée par des morceaux d'endométriose qui vont être là, et ces zones deviennent douloureuses au contact. Les autres aspects, c'est ce qu'on appelle des problèmes d'infertilité qui peuvent survenir. Et un des symptômes qui est souvent associé aux douleurs des règles, c'est les troubles digestifs, voire urinaires. C'est-à-dire ce sont des femmes qui ont des douleurs de règles accompagnées d'autres symptômes comme de la diarrhée, comme des problèmes urinaires avec des urgenturies. Et tous ces symptômes-là doivent faire penser qu'il y a peut-être une endométriose et donc il ne faut pas laisser s'installer le phénomène douloureux de façon chronique. En tout cas, il faut essayer de le diminuer.
Donc c'est une pathologie douloureuse qui gêne énormément la femme. On l'a vu dans ses relations intimes, dans sa vie sexuelle, ce qui est une catastrophe parce que, bien évidemment, ça lui enlève de sa liberté, mais aussi plurisymptomatique qui peut toucher le tube digestif, le système urinaire, donc qui est extrêmement vaste et donc qui s'intéresse à plusieurs disciplines médicales. Vous travaillez donc avec les urologues, les gastro-entérologues, les chirurgiens, bien évidemment. Est-ce qu'il y a une prise en charge globale ou c'est plutôt les gynécologues qui s'en occupent ?
Si vous voulez, en fonction du symptôme le plus marquant au départ, si c'est une pathologie urinaire, c'est sûr que ça va être l'urologue. Si c'est gynécologique, ce qui est le cas, en général, c'est nous. Et donc, sur le plan pratique, ce qu'on a mis en place depuis fort longtemps, puisque ça avait été mis en place avec mon collègue Pierre Costa dans le service d'urologie, où on avait une consultation pluridisciplinaire, et où il y avait les gynécologues, les urologues, les gastro-entérologues et les algologues. Donc, si vous voulez, cette mise en place d'un travail pluridisciplinaire a été installé puisqu'on discutait de ces dossiers depuis plus de 25 ans. Et la particularité aujourd'hui, depuis 10 ans, c'est qu'on fait des consultations d'emblée pluridisciplinaires. Par exemple, tout ce matin, je consultais avec une de mes collègues du service d'algologie du service du professeur Viel, qui était le docteur Anaïs Pagesque, avec qui j'étais, et pour consulter ensemble sur ces problèmes de douleur.
Donc il existe toujours une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, parmi toutes les femmes, qui plus particulièrement en souffre ? Est-ce qu'il y a un terrain ? Est-ce qu'on définit une personnalité, j'ose dire entre guillemets, comme on dit actuellement, de femmes qui souffrent plus d'endométriose ?
Alors ça, si vous voulez, c'est pas parce qu'on a des cheveux blonds ou des cheveux bruns ou des cheveux roux. L'endométriose, malheureusement, lorsqu'on est porteur d'endométriose, qu'on soit mince, qu'on soit un peu moins mince, etc., les douleurs restent les douleurs. D'accord. Ça, c'est toujours pareil. Et on ne peut pas définir une typologie féminine qui va avoir une endométriose et une douleur. Par contre, il y a des femmes qui ont une endométriose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'ont pas de douleur. Et par exemple, dans les problèmes chez les dames qui ont des problèmes d'infertilité, je rappelle que quand il y a une infertilité, c'est jamais lié qu'à la femme, c'est l'homme et la femme. Mais chez ces femmes-là, on a presque 40% de femmes qui sont porteuses d'endométriose.
Donc, vous le dites, il n'y a pas de typologie, il n'y a pas de signe particulier, un profil biologique ou médical d'une femme qui pourrait avoir une endométriose.
Ce que je vous dis, on est en train, maintenant c'est comme dans la recherche des cancers, on est en train de dépister des petits marqueurs qui peuvent être recherchés. Actuellement, alors certains qui nous écoutent, je pense, et qui vont regarder sur Internet, alors il faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet.
Il faut toujours faire très attention à ce qu'on voit sur Internet.
Et avoir deux autres avis au minimum. Mais par contre, on est en train de développer un test qu'on appelle test salivaire. Et il y avait le congrès mondial de l'endométriose où il y avait mes collègues, le professeur Letouzet et le professeur De Terrac, eh bien, où on a parlé d'un test salivaire qui viendrait conforter le diagnostic.
Donc ça, évidemment, ça faciliterait beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'il n'y aurait plus d'examens ni invasifs, ni agressifs, ni d'autres examens d'imagerie médicale. Mais la question qui vient à l'esprit à chacun, c'est vraiment pourquoi certaines femmes en souffrent et pourquoi d'autres sont indemnes. Ça non plus, on n'a pas de...
Alors, ce qu'on peut évoquer, c'est vrai que je vous dirais qu'avec les quelques années d'expérience que j'ai derrière moi, c'est très difficile de savoir parce qu'on voit des dames qui ont des endométrioses sévères avec des kystes volumineux, avec des adhérences qui n'ont pas mal.
D'accord.
Et on voit des dames qui ont des endométrioses que nous, médecins, on appelle superficielles et qui ont très mal. Alors la vraie question, c'est que peut-être la recherche va nous permettre de différencier dans ces endométrioses des endométrioses très inflammatoires et des endométrioses moins inflammatoires.
Avec une composante donc inflammatoire.
Mais ça, on n'a pas de marqueur. Par contre, il y a la clinique et on sait que des traitements anti-inflammatoires réduisent ces phénomènes douloureux.
Très bien, je vous remercie. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Nous recevons aujourd'hui Pierre Marès qui nous parle de l'endométriose. Et je vous propose une pause musicale en écoutant Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte, par l'Orchestre National de France, dirigé par une femme, Dalia Staveska. Alors nous recevons le professeur Pierre Marès, qui est gynécologue obstétricien, qui nous parle aujourd'hui de l'endométriose. Alors j'ai une question supplémentaire à lui poser, deux questions qui viennent à l'esprit. Douleur féminine, ça on l'a compris, vous l'avez dit, et endométriose. Et infertilité endométriose, qu'en est-il de l'infertilité de l'endométriose? J'ai en tête une patiente, il y a longtemps donc on n'était pas au point de recherche de l'endométriose, où son drame c'était pas l'endométriose, c'était son infertilité qu'on lui avait expliqué par son endométriose. C'est-à-dire qu'elle était doublement malade et par son endométriose et par l'infertilité que cela lui procurait.
Alors pour répondre à votre question concernant l'infertilité, si vous voulez, je crois qu'il faut quand même rappeler que pour qu'il y ait un embryon, il faut un ovocyte et un spermatozoïde. Donc si vous voulez, on a pendant des années beaucoup trop enfermé parce que c'était la seule personne qu'on savait bien soigner. On s'est enfermé sur des diagnostics portant une pathologie de la femme en disant c'est les trompes qui sont bouchées, elle n'ovule pas, elle n'a pas de bons ovocytes.
L'infertilité, c'était un problème de femme.
Et on disait que c'était un problème de femme. Or, on s'est rendu compte que c'est 50-50. Et donc, quand il y a un problème de femme par rapport à leur pathologie, c'est qu'il y a souvent aussi un problème masculin. Donc, c'est ça qu'il faut rappeler. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est hyper fertile, comme je dis souvent en riant, vous n'aurez pas besoin de venir voir le médecin. Ça va marcher, madame ou monsieur. Par contre, lorsqu'il y a un petit problème, c'est qu'il y a un petit problème des deux côtés quand ça ne marche pas bien. Et donc, pour répondre clairement à votre question, quand on s'est mis à une époque où on faisait beaucoup de célioscopie sur des infertilités qu'on appelait inexpliquées, à ce moment-là, on trouvait parfois une endométriose. Et c'est vrai que chez les femmes qui ont une infertilité, donc dans des couples où il y a une infertilité, on trouve l'endométriose dans 40% des cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez les femmes qui ont des grossesses, si on leur fait une célioscopie pour une autre pathologie après, on trouve aussi, dans 15 à 20% des cas, une endométriose. Donc, c'est ce rappel important, les femmes n'est pas porteuse de l'infertilité, parce que c'est souvent du côté de l'homme où il y a une asthéno ou une tératospermie qui vient pas équilibrer ou qui vient s'ajouter à la pathologie qu'on a trouvée du côté féminin. Et il faut bien traiter les deux du couple.
Et par expérience, en consultation, je me rappelle, je peux témoigner que les hommes sont difficilement prêts à accepter une stérilité de leur part. Et on voit le grand désarroi dans lequel ils sont plongés quand on leur dit qu'ils ont une azoospermie, une difficulté au niveau de leur spermatozoïde. Donc on ne peut pas dire que l'endométriose rend stérile ou plus stérile.
Non, on ne peut pas dire ça. On peut dire qu'il y a une baisse de fertilité qui peut être liée à l'endométriose, mais comme je vous l'ai dit, si vous regardez chez les femmes qui ont des grossesses, on va trouver des endométrioses.
D'accord. Et maintenant, la question qui me vient à l'esprit, c'est quels sont les traitements aujourd'hui de l'endométriose ?
Alors, les traitements de l'endométriose, vous l'avez compris, je dirais de façon très schématique, il y a les signes qui font évoquer une endométriose, c'est une jeune femme qui a des douleurs des règles associées aux pathologies qu'on a évoquées. Et là, on a des traitements symptomatiques, ça peut être, comme je vous l'ai dit, des anti-inflammatoires et des antalgiques qu'elles prennent au moment des douleurs. Et alors ça, le message important, c'est qu'on a été éduqué à attendre d'avoir mal. Pour les traitements contre la douleur, il faut les prendre quand la femme sent qu'elle va avoir mal. C'est-à-dire, avant d'avoir mal, elle débute le traitement. Comme je dis souvent en riant, si vous voulez, quand vous avez une branche qui brûle, vous allez l'éteindre facilement. Quand vous avez toute la forêt d'Amazonie, ça ne marche
pas
bien.
C'est très difficile.
Donc, pour les traitements, dès le début, il faut réduire ces phénomènes douloureux pour pas que s'inscrive la mémoire de la douleur. Ensuite, si ceci devient de plus en plus fréquent ou se répète dans le cycle, on a soit la pilule, qui est une très bonne méthode de blocage des règles.
Et alors pourquoi la pilule marcherait pour l'endométriose ? Alors, un problème hormonal
Elle intervient pour deux raisons. La première, c'est qu'elle va réduire l'abondance des règles. Et en réduisant l'abondance des règles, elle réduit les phénomènes contractiles au niveau de l'utérus au moment des règles. Ensuite, on peut utiliser des pilules en continu qui bloquent complètement les règles. Et donc, ces phénomènes inflammatoires qui se passent au moment des règles avec le sang qui est au niveau des poches d'endométriose ou d'adénomyose, eh bien, est réduite et les douleurs souvent disparaissent. Par contre, c'est ce qu'on a découvert, c'est cette troisième étape, c'est qu'on a découvert qu'au-delà des douleurs liées strictement à l'endométriose dans sa forme spécifique, il y a des douleurs qui restent résiduelles, qui sont liées soit à la masse des kystes, qui sont liées soit à des adhérences qui se sont faites, à des fibroses qui se sont réalisées et qui deviennent douloureuses parce que les tissus ont perdu leur élasticité.
Il y a des douleurs secondaires engendrées par l'endométriose.
Et qu'il faut traiter. C'est ça la complexité aujourd'hui du traitement.
Mais c'est à deux ou même trois niveaux. Il peut y avoir la douleur de l'endométriose, la douleur par les perturbations des tissus que l'endométriose a agi, une troisième douleur induite au-delà. Et puis aussi la douleur de la personne parce que
La douleur personnelle qu'on a enregistrée.
Je suis algologue et donc toute la personne qui souffre et qui a eu mal, automatiquement garde une mémoire douleur, une douleur généralisée qu'il faut prendre en charge par une pluridisciplinarité.
Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il faut soigner le local et le général, parce qu'on est corps et cerveau, corps et âme, appelez-le comme vous voulez, mais sur le plan pratique, Et ces douleurs du périnée, si vous voulez, elles s'enregistrent au niveau du cerveau. Et souvent, je dis aux dames, c'est votre corps inconscient qui vous rappelle cette douleur. Donc, il faut faire ce travail d'accompagnement sur le plan général.
Il existe des marques de douleur, ça je peux en témoigner en tant qu'algologue, des marques de douleur, des douleurs de la personne qui reste, une personnalité douloureuse qui reste. Alors, dernière question, c'est quelles sont les perspectives actuelles des femmes qui subissent une endométriose ? Est-ce qu'il y a des voies de traitement nouveaux ?
Alors, les traitements, c'est vrai que tous les 2-3 ans, on a des évolutions. Déjà, sur les séquences que je viens de vous évoquer, entre les produits qui nous permettent de bloquer l'ovulation, entre les produits antalgiques qu'on peut utiliser, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la chirurgie. Qui, dans certains cas, donne de bons résultats. Mais ça, il ne faut pas jamais l'oublier. Je suis chirurgien aussi. Et donc, sur le plan pratique, si vous voulez, ce qui est important, c'est de se rendre compte que la chirurgie, vous avez vu, on ne l'a plus mise en premier. Alors qu'avant, on opérait. Et comme tout bon chirurgien honnête, on sait que dans 15 à 20% des cas, il va y avoir des séquelles douloureuses quand on opère. C'est toujours pareil.
On découvrait beaucoup d'endométriose par la chirurgie. Je me rappelle beaucoup de diagnostics qui étaient faits par la chirurgie.
Et donc, la chirurgie, avec les techniques de laser, avec les techniques de, si vous voulez, de destruction limitée sur les zones de l'endométriose, on a des résultats bien plus puissants qu'avant. Surtout que cette chirurgie, maintenant, est préparée dans le cadre des consultations de la douleur avec des thérapeutiques préalables, ce qui évite de maintenir ces douleurs mémoire qui persistaient, parce qu'avant, quand on les opérait, quand moi j'en avais à opérer, on n'avait pas toutes ces préparations au niveau des médicaments, au niveau psychologique, pour préparer les suites post-opératoires dans de bonnes conditions.
C'est ça, il faut préparer l'organisme à avoir mal pour que la douleur
Avoir moins mal.
Ouais, soit moins bruyante, soit moins violente et lumineuse. Ben, il me reste remercier Pierre Mérès pour sa présence à nos côtés et ses nombreux éclaircissements sur cette pathologie féminine qui est l'endométriose. Merci encore infiniment
à vous. Avec plaisir.
Mais avant de vous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui, des ouvrages publiés par les éditions du groupe Guy Trédaniel. La petite boîte pour bien vivre l'endométriose, dont l'auteur est Marie-Rose Gallès. Endométriose, pose tes questions. Toujours Marie-Rose Gallès. Endométriose, ce que les autres pays ont à nous apprendre. L'auteur est toujours Marie-Rose Gallès. Comment guérir de l'endométriose par Julie Sinclair. Et comment s'épanouir malgré une endométriose de Julie Sinclair. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé en trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.
Vous écoutez Radio Alliance Plus.